Les informations sont présentées par Camille Magnard.
Bonjour. C'est un quitte ou double dans lequel se lance Jean-Marc Janaillac, le PDG d'Air France, met sa démission dans la balance d'un vote électronique organisé pour tous les salariés de la compagnie. Pour ou contre sa proposition de hausse des salaires pour sortir de la grève débutée en février et qui, selon lui, a déjà coûté plus de 300 millions d'euros. Les syndicats d'Air France ont déjà refusé cette proposition. Reste à savoir si le personnel les suivra jusqu'au bout du bras de fer. Joël Lejanic de Sud Aérien est plutôt confiant.
Il nous a fait un ultimatum en demandant aux syndicats de signer. Aucun syndicat ne signe. Aujourd'hui, j'ai vu aucun salarié bouleversé me disant il faut absolument signer parce que personne n'est content de ce qu'il propose. On demande un rattrapage des années, des 7 ans de blocage des salaires. Et là, ils nous proposent des augmentations sur les 3 années à venir où c'est juste l'inflation. Cette année où Air France fait les plus gros bénéfices de son histoire, etc., tout le monde attendait un rattrapage. Pour vous dire, je viens d'avoir mon augmentation individuelle ce matin. 0,2%, voilà.
Cette décision de mettre un peu sa tête en jeu, ce pari un peu risqué, on peut le dire, de Jean-Marc Janaillac, qui démissionnera, donc si la consultation n'est pas en sa faveur, ça vous fait quoi?
Oui, je crois qu'il est parti pour démissionner, mais honnêtement, ça ne bouleverse pas, parce qu'on voit se succéder. M. Janaillac, je l'ai rencontré à son arrivée il y a un an et demi, il venait de la promo Voltaire de l'ENA et tout ça, sans une grande connaissance du transport aérien, voire pas du tout de connaissance. Ça fait un an et demi qu'il est là, il nous a rien fait de bouleversant, on n'a aucun projet. Véritable de croissance. Personne ne va dire « au secours, c'est la fin du monde, M. Janaillac s'en va ». Non, ce qu'on ne veut pas, c'est s'ils nous en remettent un autre qui va encore nous faire le coup, j'arrive, ils ont tous le même discours, ça serait bien que ça change. Quoi.
Joël Lejanic du syndicat Sud Aérien, joint par Louis-Valentin Lopez, prochaine journée de grève chez Air France, ce lundi et ce mardi. À Notre-Dame-des-Landes, un geste vers une sortie de crise. Les habitants de la ZAD ont finalement accepté hier de déposer pas moins de 40 dossiers nominatifs en préfecture de Loire-Atlantique, des projets agricoles mais aussi culturels ou artisanaux sur ce qu'ils voudraient faire en restant sur la zone occupée depuis maintenant plus de 10 ans. Des réactions prudentes ou enthousiastes, l'actualité internationale marquée par cette annonce en provenance de Corée du Nord. Pyongyang affirme suspendre son programme d'aide d'essais nucléaires et de tirs de missiles longue portée. Kim Jong-un doit rencontrer la semaine prochaine son homologue du Sud sur la zone démilitarisée entre les deux Corées. Donald Trump salue une très bonne nouvelle pour la péninsule coréenne et pour le monde. Vu de Pékin, ce geste va permettre d'avancer, nous expliquons, vers la dénucléarisation des deux Corées. Le Japon tout de même fait remarquer que rien n'a été dit sur les missiles de longue portée nord-coréens tirés par Pyongyang et qui menacent régulièrement l'archipel nippon. La polémique enfle en Belgique où l'on apprenait cette semaine que des entreprises ont livré pendant des années à la Syrie un produit chimique, un produit qui peut entrer dans la composition d'armes toxiques illégales. 96 tonnes d'isopropanol interdit à l'exportation vers la Syrie depuis 2013. Les 3 entreprises belges concernées devront répondre de ces accusations devant la justice à la mi-mai. Pierre Benazé.
L'isopropanol est utilisé pour des préparations pharmaceutiques, des produits nettoyants ou comme solvant pour peintures et vernis, mais il peut aussi servir comme élément chimique précurseur pour fabriquer du gaz sarin. À ce titre, la Syrie s'était engagée en octobre 2013 à détruire son stock d'isopropanol et l'exportation vers ce pays avait été interdite sur recommandation de l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Pour Georges d'Allemagne, député au Parlement fédéral, le gouvernement belge ne prend pas la mesure de la gravité de l'affaire.
Ce qui est absolument incroyable, c'est que la Belgique, l'administration belge en tout cas, notifie régulièrement ses exportations à l'Organisation des Nations Unies qui est compétente pour le commerce international. Et donc on voit qu'effectivement chaque année, la Belgique notifie les tonnages qui sont exportés. Visiblement l'administration a toujours su. Qu'a-t-elle fait? Pourquoi ces exportations sont poursuivies alors que dans les autres pays de l'Union Européenne, ces exportations se sont arrêtées? Ce serait évidemment dramatique si effectivement du gaz sarin avait été produit avec ces produits chimiques.
Après l'interdiction de l'exportation d'isopropanol, 24 cargaisons ont encore quitté la Belgique vers la Syrie entre mai 2014 et décembre 2016.
Pierre Benazet à Bruxelles. Des manifestations qui basculent dans la violence, cette fois au Nicaragua contre la réforme des retraites voulue par le président Daniel Ortega. Des milliers de personnes affrontent les forces de l'ordre depuis jeudi. Des affrontements qui ont déjà fait au moins 10 morts. Pas question de relâcher la pression sur les décideurs politiques aux États-Unis. Nouvelle journée de mobilisation hier de la jeunesse contre les armes en vente libre. Ce vendredi, le mouvement né après la tuerie de Parkland en Floride marquait le 19e anniversaire de celle de Columbine qui avait fait 13 morts en 1999. Marco Voltaire a suivi le défilé à New York.
This is every student killed since Columbine. Scott distribue des pancartes aux adolescents assis autour de la fontaine du Washington Square Park en plein cœur de Manhattan. Sur chaque pancarte, un nom et une image de l'arme avec laquelle cette personne a été abattue. Il s'agit de tous les élèves et enseignants morts dans une fusillade à l'école depuis le massacre de Columbine il y a 19 ans. 162 victimes, selon le décompte de Scott. Après la grande marche anti-armes d'il y a un mois, c'est désormais l'avenir du mouvement qui est en jeu face au risque d'essoufflement. Mais les jeunes réunis à New York sont confiants. Sur les réseaux sociaux, on peut poster des photos de ce rassemblement, rappeler ce qu'on a été capable de faire, explique George, 18 ans. Nous n'allons pas en rester là. La suite se jouera aussi et avant tout dans les urnes, estime Sarah. Cette étudiante se mobilise pour que les jeunes s'inscrivent sur les listes électorales. Les jeunes doivent savoir que leurs voix peuvent être entendues et s'ils s'enregistrent sur les listes électorales, ils peuvent la faire entendre au niveau du gouvernement. Alors les élections de mi-mandat en novembre auront déjà valeur de test. Les midterms intéressent généralement assez peu les jeunes Américains, mais la contestation anti-armes et anti-Trump pourrait bien changer la donne.
Marco Voltaire, on ne change rien ou presque côté météo. Grand soleil et forte chaleur sur tout l'Hexagone aujourd'hui, hormis sur la Normandie qui voit la pluie revenir progressivement. Les températures sont déjà supérieures un peu partout à 20 degrés. Ce matin, on va aller jusqu'à 28 au plus beau de la journée sur l'Île-de-France et sur le quart nord-est. Les éditions de cette matinée étaient réalisées avec Brice Garcia à 12h30. Retour de l'info sur France Culture. Ce sera avec Mathieu Laurent.